Bonjour, bienvenue sur Radio Méga dans l'émission Underscore. Regardez, une espèce disparue est de retour, reproduite dans un laboratoire. Pour des raisons de sécurité, seront enfermés dans un parc. À moins qu'ils s'en échappent.
Bonjour Cécile.
Bonjour Ayman.
Et bonjour François Tonic.
Oui, bonjour.
Que nous avons au téléphone et qui va nous parler d'un tout nouveau magazine qui va sortir, mais on vous en dira tout de suite après les actus et la petite pause musicale.
Nous allons prendre quelques libertés et nous allons passer à l'actualité.
Donc qu'est-ce qu'on a à l'actu?
CERN arrête d'utiliser Facebook Workplace. Le CERN, qui testait gratuitement Facebook Workplace, ne souhaite pas payer pour garder le contrôle de ses données. Et de toute façon, peu de personnes l'utilisaient. Comme alternative à Workplace de Facebook, le CERN propose des solutions open source, Mattermost et Discourse.
Après l'arrêt du support de Windows 7, la Corée du Sud envisage de migrer vers Linux. Et je cite, « À partir de la fin de cette année, le système d'exploitation utilisé par le gouvernement central, les gouvernements locaux et les institutions publiques devrait être remplacé par un système d'exploitation ouvert développé par des entreprises coréennes. »
La FSF envoie à Microsoft un disque dur vide pour récupérer le code source de Windows 7. Pour faire suite à une pétition et en récolter plus de 13 000 signatures demandant la libération du code source de Windows 7, la FSF a envoyé un disque dur vide pour faciliter la vie à Microsoft, qui n'aurait donc plus qu'à copier le code, choisir une licence et la renvoyer. Nous voulons qu'ils montrent exactement l'amour qu'ils ont pour les logiciels open source, qu'ils mentionnent dans leur publicité, s'ils aiment vraiment le logiciel libre, et nous sommes prêts à leur accorder le bénéfice du doute. Ils ont la possibilité de prouver au monde, nous espérons qu'ils
se contentent pas
de capitaliser sur le modèle de développement du logiciel libre de la manière la plus superficielle et la plus exploitante possible, en l'utilisant comme outil de marketing et pour nous faire croire qu'il se soucie de notre liberté, a déclaré la FSF.
Un rapport sur les ratés de la transparence des algorithmes publics. Des élèves de l'ENA reviennent sur les difficultés rencontrées par les administrations pour se conformer à la loi numérique qui leur impose la transparence des algorithmes qu'elles utilisent. Oh mince alors. Ouais, ben moi j'ai eu des soucis avec la CAF ce mois-ci, d'ailleurs j'attends toujours et je leur ai demandé le code source de leurs algorithmes. On va voir ce que ça donne, sinon je ferai une requête CADA, je vous en parlerai quand ça se fera.
25 millions d'euros d'amende pour Apple. Après le scandale des iPhones ralentis pour préserver leur batterie, la DGCCRF a donné gain de cause à l'association HOP. Halte à l'obsolescence programmée. Apple se dit heureux de cette issue avec la DGCCRF.
La Quadrature du Net attaque l'un des décrets Hadopi. Lors d'une audience en Conseil d'État, la Quadrature du Net, FDN et la Fédération des FAI associatifs sollicitent l'abrogation d'un des décrets Hadopi pris en application des lois de 2009 et ont soulevé une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, sur un des articles de la loi.
La CNIL met en demeure Engie et EDF sur Linky, notamment sur le recueil et de consentement qui n'est pas spécifique et ni suffisamment éclairé.
La DGCCRF, toujours elle commence enfin à se bouger, alerte sur les dangers des ordiphones en charge dans la salle de bain. En effet, suite à une qualification pour un Darwin Award, c'est-à-dire des décès à cause d'ordiphones branchés sur leur chargeur dans une salle de bain, la DGCCRF rappelle qu'il ne faut pas faire ça.
Ouais, j'ai vu récemment une adolescente justement qui est morte dans son bain parce qu'elle utilisait son téléphone avec son chargeur.
Et c'est pas bien.
Et l'apocalypse aura peut-être lieu sur Unix en 2038.
Ou peut-être pas.
Des patchs arrivent dans Linux, le noyau, pour contourner le problème de l'apocalypse. Ce débordement du temps compté en secondes depuis le 1er janvier 1970 sur un entier 32 bits arrivera en 2038. On a encore le temps de patcher les OS et les applications, mais il faut penser aussi à tous ceux qu'on a déjà déployés et qui ne sera pas forcément mis à jour. Enfin, pour les choses qui seront encore en marche à cette date.
Et c'est pas gagné. Voilà, c'est tout pour les actus. On fait une petite pause et on se retrouve après avec François Tonic pour parler du magazine Technosor. Oh, c'était bien ça.
Mais oui, c'était Celtic, une musique de démo de Chiptune. Voilà, c'était un XM à l'origine et on est content de vous les faire découvrir sur Radio
VLC,
Mega.
Ça marche bien pour convertir.
Oui, VLC, ça marche super bien.
Voilà, on va reprendre notre correspondant en ligne. J'espère qu'il est toujours en ligne. Bonjour François.
Oui, bonjour.
Donc tu es François Tonic, tu es le rédacteur en chef du magazine Programmé, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Et donc, on a souhaité t'interviewer parce que tu as lancé récemment un tout nouveau magazine qui s'appelle donc Technosaur. Mmh. Voilà, donc il y a le numéro 2 qui est en préparation.
Il est même parti en impression il y a 3 heures.
Eh ben c'est super ça, donc c'est une bonne nouvelle. Après, pour te connaître un petit peu, j'aimerais te poser quelques questions. Déjà, c'était quoi ton premier ordinateur?
Alors, c'était pas vraiment un ordinateur, c'était un PD100 Casio, donc plutôt une calculatrice programmable de 83.
D'accord. Et donc, t'as fait des choses avec
C'est avec ça que j'ai fait mes premières lignes de basique.
C'est vrai qu'avec les Casio de l'époque, on pouvait faire des choses.
On pouvait faire plein de choses. Et puis ensuite, je suis passé au CPC, 464-6128. Ah. Et après, mes parents m'ont offert mon premier ordinateur à moi, et c'était un Atari ST.
Atari.
Ah oui, c'est un gars bien, dis donc, il est passé par CPC puis Atari, ça va?
Ouais, c'est ça.
Voilà.
C'est fréquentable.
C'est bien qu'il coche toutes les bonnes cases.
Que je suis un anti-Amiga, évidemment, normal.
Et du coup, alors, ça c'est les ordinateurs que tu as eus. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes que tu aurais aimé avoir, des coups de cœur?
Bah, moi, ce que j'ai jamais eu vraiment à moi, c'était un Next.
Ah oui, mais je crois qu'on était tous...
J'en ai tâté un petit peu quand je travaillais en ESN, donc en boîte de service, donc ça remonte maintenant quelques années, mais malheureusement je ne l'ai jamais eu en propre, et ça fait que depuis quelques mois que j'ai eu la chance d'en retrouver un, et donc maintenant il trône sur mes étagères.
Ah ah, ouais, et puis j'ai cru comprendre que tu cherchais une Beatbox aussi.
Oui, alors ça c'est un de mes rêves. Mais effectivement, la fameuse machine de Bee Inc., hein, donc quand Jean-Louis Gasset avait fondé Bee, et le système BOS. Et c'est rien que ça fait partie des machines de rêve que je voudrais bien avoir. Et je trouve qu'elle irait très bien avec mon Next Cube.
Je plus sois. Alors, comme on l'a dit, tu es rédacteur en chef du magazine Programmé, qui est un mensuel, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait, c'est un mensuel depuis 22 ans.
Ouais. Ah oui, quand même.
Quand même.
Et donc, je suppose que tu dois être déjà très très occupé. Alors, quelle est la motivation donc, pour lancer Technosaur en plus quoi?
Alors, la motivation est très simple, parce que déjà, je m'ennuie, déjà, effectivement, au bureau, apparemment. J'aime bien avoir de nouveaux projets. Et pourquoi Technosaur? Tout simplement parce que je suis resté très proche du matériel, et notamment du matériel ancien. Il y a un an et demi, j'avais déjà écrit un MOOC, hein, donc c'est mi-livre, mi-magazine, sur une histoire des micro-ordinateurs de 1973 à 2007. Mmh. Et ça fait maintenant, depuis quelques mois, que j'ai l'idée de pousser un petit peu ça un petit peu plus loin. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de sortir un petit mag, alors très modeste pour l'instant, hein. Mais c'était l'idée, c'est comme ça qu'a germé l'idée de Technosaur.
D'accord.
Donc c'est vraiment, déjà pour moi, c'est la passion des anciennes techno, des machines entre les années 60 et 2000, mais c'est aussi pour faire partager aussi aux lectrices-lecteurs tout un univers qu'ils n'ont pas forcément connu. Et pourtant, ça fait partie de notre histoire IT, ça fait partie de l'histoire de l'informatique. Et si on en est là où on en est aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a eu toutes ces évolutions passées.
Et oui, donc c'est pour rappeler aux jeunes aussi que y a eu des choses avant qu'ils naissent.
Oh là que oui. oui, tout à fait.
Pour aussi éviter de reproduire les mêmes erreurs peut-être.
Oui, ma erreur, et puis voir surtout... à cette époque-là, on avait un foisonnement d'idées, de formes, de matériel, de technologies, bon, bah, parfois très très foireuses, parfois, non, ça c'est clair, et d'autres bah, qui sont restées jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour montrer vraiment que dans les années 80-90, on a eu un fourmillement d'idées de constructeurs qu'aujourd'hui on a peine à croire, parce que bah, aujourd'hui on a quelques standards et puis c'est tout.
Oui, il y a les Mac, et puis il y a les PC, puis il y a les tablettes sous Android, et puis c'est à peu près tout, quoi.
Voilà, donc, et c'est vrai que lorsqu'on remonte milieu années 80, on avait des dizaines et dizaines de constructeurs qui n'étaient pas compatibles entre eux très bien souvent, et c'est vrai qu'on voyait des machines totalement exotiques, hein. Et ça, c'est important de rappeler un petit peu la chose, et puis que bah, l'informatique, ça n'a pas commencé avec un iPhone, hein, en 2007, qu'il y avait eu autre chose avant, que les clés USB de 256 gigas, on avait des disquettes qui tenaient 160K à l'époque, ou des cassettes aussi. Et c'est vrai que lorsque je montre ça à des étudiants, des cassettes, ils n'en reviennent pas qu'on pouvait stocker des programmes dessus.
Ouais. Ah non, mais moi carrément, j'ai vu mon fils, il a retrouvé dans un vieux tiroir une cassette de DV. Il m'a demandé si c'était un porte-savon.
Non, mais c'est étonnant. Et puis après, il leur expliquait comment on stockait les données dessus, comment on pouvait accéder à un programme dessus, pourquoi il y avait un compteur sur le magnétophone quand même.
Oui, ouais, parce qu'il fallait pouvoir retrouver les programmes une fois qu'on les a mis au milieu.
Voilà. Et c'est vrai que leur présenter ça, ça leur ouvre vraiment tout un pan de l'histoire qu'ils ne connaissaient pas.
Oui, parce que tout devient facile, tout devient accessible. Il suffit de claquer des doigts pour en fibre, on a tout de suite le film voilà. En question.
Mais effectivement, à l'époque, non, il n'était pas pareil. Et l'autre enjeu aussi, c'est... alors, ça, c'est de mon point de vue et c'est mon espace lié effectivement au magazine. C'est d'essayer de préserver aussi un petit peu cette histoire. Aujourd'hui, malheureusement, on a tout un tas de matériel et de logiciels qui disparaissent chaque mois et chaque année. Et c'est dramatique parce que c'est tout un pan de l'histoire de l'informatique que l'on perd.
Oui, on a déjà parlé dans notre émission hein, d'associations comme Silicium, il y a MO5 aussi qui
s'intéresse au projet et
qui restaure, voilà, qui maintient aussi des machines, des logiciels et qui les restaure et tout ça, qui font un vrai travail muséographique, effectivement. Et donc qu'est-ce qu'on peut attendre de ce magazine en termes de contenu ? Est-ce qu'il y a des articles donc, sur l'histoire, sur la technique ? Est-ce qu'il y aura du code aussi ou on
alors,
va peut-être garder ça pour programmer ?
Non, c'est alors on pourrait éventuellement en avoir, mais dans un premier temps, ce n'est pas souhaitable parce que c'est pas quelque chose pour le développeur. Hein. Enfin à la base, même si bon, pourquoi pas en mettre ponctuellement, mais l'idée de base au niveau du contenu, ça va être du matériel, ça va être les pannes, les réparations, comment on répare le matériel ancien, comment on retrouve du matériel, des composants, ça va être toute la partie de nettoyage, comment on entretient un petit peu chaque mois au quotidien ces machines-là. Ça va être des interviews, ça va être des reportages.
D'accord.
Par exemple, dans des collections, dans des musées. Ça va être un point sur la présentation de jeux, de technologies aussi, des systèmes. Mmh. Donc voilà, donc c'est aussi bien du matériel que du logiciel pur.
Donc ça ne sera pas du coup réservé aux codeurs, mais c'est vraiment non. Pour tous les fans de ces vieilles machines et tous ceux qui sont curieux de comment c'était à l'époque.
Est-ce que vous allez recueillir aussi des témoignages de gens, d'acteurs de l'époque pour pouvoir revoir et un peu retracer l'aventure de chaque machine ? Est-ce que vous avez ce projet-là ?
Alors, c'est ce qu'on va essayer lorsqu'ils sont encore vivants.
Oui, bien sûr.
Évidemment, parce qu'il y en a un certain nombre bah, qui ont trépassé maintenant depuis quelques années. Alors, sans déflorer un petit peu le sommaire du numéro 2, je peux vous dire que je suis allé voir les laboratoires de l'INRIA pour dénicher un des créateurs d'une machine exceptionnelle française sortie en 81.
Ouais. Ben moi, je sais, voilà. Mais je vais pas spoiler non.
Ouais, mais c'était juste il y a 39 ans, quoi. C'était une paille, quoi.
C'est ça.
Ah, et donc là, j'ai eu la chance, effectivement, de retrouver cette personne-là et qui a bien voulu témoigner de son expérience, de son voyage initiatique, entre guillemets, effectivement, aux États-Unis. Mmh. Et il nous racontait un petit peu l'ambiance de ce projet-là, qui a tourné un petit peu au fiasco. Mais l'idée, c'est de se remémorer un petit peu de ses aventures et quand on pourra le faire, m'interviewer vraiment les personnes qui ont fait ces machines-là, évidemment.
Et oui, c'est vrai qu'on a l'habitude de faire des
en fait.
On a l'habitude de faire des projets qui font des flops en France, effectivement. Le Minitel, ça a marché, mais bon, après on a oublié de passer à Internet. Il y avait le projet Cyclades avec Louis Pouzin et compagnie. Donc c'est ouais, la France, c'est une grande histoire.
C'est très étonnant et après effectivement on pourrait y passer des heures, mais en fait, les premiers flops, c'est des années 60 avec les fameuses affaires bulles.
Mmh. Voilà, oui, oui.
Ça, je ne rentrerai pas dedans parce qu'on aurait...
ça ferait des sujets d'article, ça.
Mais voilà. Donc voilà un petit peu toute l'idée de Technosor, hein, c'est de partager ma passion, évidemment, mais aussi d'avoir... des contributeurs et d'essayer vraiment d'être très large dans les sujets et dans les thèmes que l'on peut aborder.
Ok, et donc on peut retrouver le magazine, pour l'instant on doit le commander en ligne, c'est ça?
Oui, tout à fait, donc sur programmer.com. Hein,
on vous mettra les liens.
Il est commandable là-bas, ou sinon quand je suis sur des salons de dev ou des salons IT, je le proposerai aussi là-bas.
Ah, faudra venir nous montrer ça à la prochaine Alchimie alors.
Ce serait sympa, effectivement, de faire cette belle découverte.
Voilà. Et puis peut-être que je ressortirai quelques-unes de mes machines.
Eh bien, merci beaucoup pour le temps que tu as passé donc, pour nous raconter Technosor. On souhaite longue vie à ce magazine, hein, peut-être
merci
autant
beaucoup.
Que programmé, ça pourrait être sympa. Je ne sais pas ce que ça donnera dans 20 ans, mais...
On croise les doigts.
On croise les doigts. Merci beaucoup, François.
Merci.
Et bien, retrouvez donc le numéro 2 de Technosor. On vous mettra bien sûr tous les liens sur notre blog AAA.fr.
Petite pause.
Merci beaucoup.
À bientôt. On fait une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour l'agenda.
Hop.
C'est très jazzy, ça.
Bah oui, c'est jazzy. Et pourtant, c'est encore une chiptune. Hein, donc c'est...
Ah, c'est du mod.
Et oui, c'est du mod, enfin du XM. Hein, c'était The Cats Club de Jams. Petite Jams. Donc, ouais. Voilà, petite, donc voilà, les samples sont bizarres, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était bien fait.
Ouais. On passe à l'agenda.
Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi.
Alors, on a le festival Micromusique, un festival de musiques électroniques, arts et technologies tout le mois de mars dans toute l'agglomération valentinoise et romanaise, parce que c'est organisé par le Conservatoire Valence-Romans, la Cordonnerie, la médiathèque La Passerelle à Bourg-les-Valence et Valence-Romans à Glos. Donc, bah, c'est dans tout le mois de mars, dans toute l'agglomération. Et notamment, il y a...
Des stages d'initiation à l'informatique musicale du logiciel Ableton, hein, donc pour les connaisseurs ou ceux qui ont envie de découvrir dans le cadre du festival Micromusique. C'est sur inscription, c'est gratuit pour les élèves du conservatoire et les adhérents à la Cordonnerie. C'est 45 euros le stage, les 3 demi-journées du lundi 2 au mercredi 4 mars, donc l'après-midi pendant les vacances scolaires à la Cité de la Musique de Romans.
Et puis il y a aussi lutherie avec un H numérique, création d'instruments en Lego Mindstorm. Donc c'est toujours dans le cadre du festival Micromusique, c'est sur inscription aussi, gratuit pour les élèves du conservatoire et les adhérents de la Cordonnerie, sinon c'est 45 euros le stage. Et là c'est du mercredi 4 mars au vendredi 6 mars, et là c'est le matin pendant les vacances scolaires toujours à la Cité de la Musique à Romans.
Crayon siffleur, fabriquez votre crayon électronique qui permet de jouer de la musique pendant que vous allez dessiner. Atelier d'initiation à la soudure pour réaliser un synthétiseur qui utilise la conductivité du graphite pour produire des sons. C'est des ateliers ouverts pour les âges de 11 et 15 ans à 15 ans. C'est 8 places, donc c'est à 35 euros. C'est le 4 mars de 10h à midi au 8 Fab Lab, 8 rue Courcomer.
C'est dur à dire toujours.
Ah. Cray.
Pourquoi ils déménagent pas? Non, ils sont très bien là où ils sont. Alors, oui. On a aussi Café Outils numéro 42, la gestion des emails au travail. Rentrer après quelques jours de repos et se sentir submergé en découvrant sa boîte de réception pleine, qui n'a pas connu cette expérience? Traiter ses mails, c'est gérer son temps et ses priorités. Mais lorsque le nombre d'envois est trop important, les entreprises et collectifs peuvent instaurer d'autres moyens de partager l'information et de travailler en équipe. Donc c'est voilà, des outils, des trucs et astuces pour mieux s'organiser. Ça, c'est gratuit sur inscription le vendredi 6 mars de 8h45 à 10h au Moulin Digital, 8 avenue de la gare à Alixan.
Nous frottons la boule de cristal.
Qu'est-ce qu'on a, Astrologique ?
Sysadmin, je suis en train d'apporter le fichier .ics de 565KO agenda dans le Nestcloud depuis 20 minutes.
Oh, ICS. Technophile, vous avez des blagues sur IPv4 ? Ah, désolé, elles sont épuisées.
Hacker, police, système. La police est toujours avec le système.
Codeur, ça me fait suer, j'en ai beaucoup transtypé.
DevOps, quand t'arrives à faire marcher le Docker, t'es tellement content que tu chantes le Youpi, la chanson de Richard Conteneur.
Ouais. Musicien, je me suis entendu, c'est ok, non c'est écho.
Haha. Eh bien, merci à mes auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. La semaine prochaine, on se retrouve avec peut-être des choses qu'on n'avait pas encore dévoilées, mais on va pas trop vous le divulgager.
On aura peut-être au doudou quand même, parce qu'il nous manque.
Il paraît que c'est sur CPC.
Ah, CPC.
Vas-y, à bientôt.
Bye bye.
Salut.